Les leçons de l'histoire, cela ne saurait être autre chose que la conscience aussi exacte qu'il est possible de ce qui s'est passé durant le passé.
Le dernier jour de l'Empire romain.
Laissez-moi passer! Il faut que je parle à l'empereur!
Qui es-tu?
Furius Titus Mama, préfet de la cavalerie. Je suis arrivé de Pavie. En 2 jours et 2 nuits, 7 chevaux ont crevé sous moi. 3 flèches m'ont transpercé. J'apporte le dernier message de notre général. En reste, il me l'a remis juste avant de tomber aux mains de l'ennemi.
Tu as passé 2 jours et 2 nuits à cheval? Tu es blessé? Et pourquoi t'es-tu donné tant de peine?
Pour que Rome vive!
L'Empire romain est mort depuis longtemps. Tu te sacrifies pour un mort. Tu combats pour une ombre. Et tu vis pour un sépulcre en ruine.
De 476 à année terminale, nous allons, ce dernier jour de cette saison de France Inter, vous proposer une libre interprétation. C'est une pépite que nous avons découverte dans les archives de l'INA, au hasard d'une couche archéologique datée 1971. Il s'agit d'une pièce d'un immense et féroce auteur suisse de langue allemande, Friedrich Dürrenmatt, à la réputation mondiale. Ce qui explique que cette année-là, il soit joué par le TNP lui-même, le TNP époque George Wilson. N'attendez aucune exactitude historique. Pour obtenir les effets qu'il souhaite, Dürrenmatt tourne au contraire le dos ostensiblement à l'histoire. Certes, en 476, comme il est dit dans la pièce. Odoacre, présenté comme le méchant chef des Germains, va mettre fin à l'Empire romain d'Occident. Mais pour le reste, l'empereur d'Orient, Zénon, interprété ici par les ténors Daniel-Émile Forc, ne se trouvait pas dans la situation piteuse qui vous sera présentée. Quant au dernier souverain d'Occident, ce n'était pas l'homme bien en chair que va incarner Michael Lonsdal, mais seulement un enfant dont l'histoire n'a gardé que le surnom, le minuscule Romulus Augustule. Mais Dürrenmatt avait besoin d'un personnage qui fut au fond un sage, un homme fait qui choisissait délibérément de laisser se défaire son pouvoir, puisque le destin de tout empire est de périr sous ses contradictions.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
La première scène se déroule dans la villa d'été de l'empereur en Campanie. D'ailleurs, nulle année, nul hiver, Romulus Michael Lonsdal ne l'a quitté. Il n'est jamais allé jusqu'à Rome. Son idéal est de rester tranquille et de laisser les autres tranquilles. Sa seule passion politique, c'est l'aviculture. À ses poules, il a donné par ironie le nom de ses illustres prédécesseurs, et à la meilleure pondeuse, celui de son ennemi, Odoacre. Il ne faut pas insulter l'avenir. Aucun homme, fût-il empereur, ne peut l'empêcher de prendre la place qui lui est due. En attendant, l'empereur voudrait bien commencer sa journée sans qu'on l'embête, mais l'impératrice, le libellon dans la version du TNP, et les ministres qui lui restent, Tullius Rotondus, William Sabatier, et Marès, André Cellier, ne le laissent pas en paix.
Oui, que veux-tu de ton empereur?
C'est affreux, c'est épouvantable.
Oui, je sais. Nous avons été vaincus à Pavie. Pyram vient de m'annoncer que la poule qui porte le nom d'Odoacre, prince des Germains, vient de pondre son 3e œuf. N'est-ce pas un présage?
Il faut faire quelque chose, Romulus. Il faut faire quelque chose tout de suite, sans quoi nous sommes perdus.
Bon, ben, je rédigerai aujourd'hui une proclamation à mes soldats.
Tu n'as plus de soldats! Tes légions se sont rendues jusqu'au dernier homme.
Oh, ben alors je vais nommer Marès maréchal d'Empire.
C'est un imbécile!
Ben, je vais aussi publier un bulletin rassurant sur mon état de santé.
Sire!
Oui, que me veux-tu encore?
Sire, l'empereur d'Orient, Zénon l'Isaurien, vient pour demander asile à la cour de votre majesté.
Tiens? Bah, il ne se sent donc plus en sécurité à Constantinople?
Oh, sire, il n'y a plus de sécurité nulle part en ce monde.
Où se trouve-t-il?
Dans l'antichambre.
Et ses 2 chambellans l'accompagnent?
Ce sont les seuls rescapés de sa suite.
Bon, Zénon peut entrer, mais à condition que ses chambellans restent à la porte. Les Byzantins sont trop cérémonieux pour mon goût.
Aux ordres de votre majesté.
J'implore ton secours et ta miséricorde, ô lune, ô firmament de l'insondable nuit. Le salut sur toi, mon très noble frère impérial.
Bonjour, Zénon.
Le salut sur toi, ma très noble sœur impériale.
Le salut sur toi, mon très noble frère impérial.
J'implore donc secourir ta miséricorde, mon cher Zénon.
Je tiens pas à t'entendre réciter les 4000 vers que prescrit le cérémonial byzantin aux empereurs qui demandent un asile.
C'est que je ne voudrais pas décevoir mes chambellans.
Ah, si tu crois que je les ai laissés entrer.
Ah bon. Pour une fois, je pourrais me permettre de ne pas éviter la formule. Je suis à bout de souffle. Depuis 6 mois que j'ai quitté Constantinople, il m'a fallu réciter les 4000 vers de j'implore ton secours et ta miséricorde à peu près 3 fois par jour devant tous les hommes politiques possibles et impossibles. Je suis à fond.
Et pourquoi as-tu quitté Constantinople?
Vérine, ma belle-mère, s'est allée aux Germains pour me chasser.
Ah, mais je te croyais du dernier bien avec eux. Ne les avais-tu pas appelés pour déposer ton propre fils?
Romulus. Les Germains envahissent nos empires. Les digues se rompent de toutes parts. Nous ne pouvons plus faire front séparément. Nous ne pouvons plus nous permettre le luxe de ce querelle fratricide. Il y va du patrimoine commun de notre civilisation qu'il s'agit de sauver.
Et crois-tu qu'une civilisation soit une chose que l'on puisse sauver?
J'ai l'impression qu'on ne se rend pas très bien compte du danger que le germanisme fait courir au monde.
Je ne cesse de le lui répéter.
Si nous n'agissons pas tout de suite, le monde court à sa perte.
C'est nous qui courons à notre perte, il y a une nuance.
Nous représentons le monde. Nous sommes le monde.
Nous ne sommes que de pauvres petits provinciaux. Incapables de voir qu'un monde nouveau est en marche et qu'il nous dépasse déjà.
Romulus, tu n'es pas digne d'être empereur de Rome. Nous devons croire en nous, en ce que nous signifions. Sinon, nous sommes perdus.
Bon, eh bien alors croyons-y.
Tu y crois?
J'y crois.
À notre antique grandeur?
À notre antique grandeur.
À notre mission historique?
À notre mission historique.
Et toi, ma très noble sœur impériale?
Je n'ai jamais cessé d'y croire.
Ah, ça va mieux. On sent positivement qu'un air nouveau souffle dans ces salles. Il était temps.
Les Germains marchent sur Rome,
mon Dieu!
Les Germains marchent sur Rome! À quelle heure part le prochain bateau pour Alexandrie?
Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas?
Demander asile à l'empereur d'Abyssinie. De là, je poursuivrai ma lutte acharnée contre le germanisme. J'implore ton secours et ta miséricorde. Oh, lune!
Bon, Marès! Je te nomme maréchal d'Empire.
Oh, j'en fais le serment à votre majesté. Je sauverai Rome. Notre dernière planche de salut, c'est la mobilisation totale.
Le maréchal a raison. La mobilisation totale nous sauvera. Elle nous rend tellement forts en théorie que nous avons pratiquement vaincu. Mobilisons tous et tout. Voilà le mot d'ordre que nous devons donner au monde.
La guerre est un crime depuis l'invention du gourdin. Avec la mobilisation totale, elle devient une absurdité.
Oh!
Marès, je mets à ta disposition les 50 hommes de ma garde personnelle.
Sire, Odoacre commande à 100 000 Germains bien armés.
Plus un maréchal d'Empire est grand, moins il a besoin d'effectifs.
Le ministre Marès compte les hommes d'Odoacre depuis des années. D'ailleurs, cela fait aussi des années qu'ils ont capturé le fiancé de Réa, la fille de l'empereur. Quelle humiliation! Le futur gendre de Romulus croupit depuis on ne sait quand, on ne sait où. Et voilà qu'un nouveau prétendant se présente avec des arguments sonnants et trébuchants.
César Krupf demande audience.
Qui?
Krupf.
Je connais pas.
Oh, c'est un personnage très important. Il a déjà écrit à votre majesté.
C'est possible, je ne lis plus de lettres depuis que je suis empereur. Qu'est-ce qu'il fait?
Il fabrique des pantalons, sire. C'est lui qui a lancé sur le marché cette pièce de vêtement qu'on enfile par les jambes, qui nous vient de Germanie et qui commence à être la mode chez nous.
Est-il riche?
Immensément!
Il faut le recevoir tout de suite, Romulus.
J'ai le pressentiment infaillible qu'il nous sauvera tous.
Je salue, César.
Je te salue aussi, César. Krupf. Voici ma femme, l'impératrice Julie. Zénon l'Isaurien, empereur d'Orient. César Krupf, que me veux-tu?
Ma famille est d'origine germanique, mais elle est installée à Rome depuis le temps d'Auguste et elle s'est acquise, dès le 1er siècle, une position prépondérante dans l'industrie textile.
Ravi de l'apprendre.
Voyons les choses comme elles sont. Je me rends parfaitement compte que les cercles conservateurs de Rome sont contre le pantalon, comme ils ont toujours été contre la plus petite lueur d'une aube de progrès. Mais moi, je suis un homme réaliste et lucide, je me dis très posément que l'avenir appartient aux pantalons. Si les Germains progressent à une vitesse vertigineuse, c'est qu'ils portent des pantalons. Aux yeux d'un homme d'affaires, c'est clair comme le jour, si Rome veut tenir tête à l'invasion des Germains, qu'elle se mette en pantalon.
Il te reste à m'expliquer pourquoi tu ne donnes pas l'exemple.
J'ai fait le serment de porter le pantalon seulement le jour où j'aurais fait jaillir dans le coin le plus reculé de la plus obtuse des cervelles la première étincelle de la conviction qu'une humanité sans pantalon n'a plus qu'à plier bagage. J'en fais une question d'honneur professionnel. Où le pantalon s'impose, où Krupp abdique.
Tu as sans doute une proposition à me faire.
Examinons froidement la situation. Nous avons d'un côté la firme mondiale Krupp et de l'autre nous avons l'Empire romain. C'est une constatation.
L'évidence même.
Considérons le problème d'un regard net et clair comme l'eau de roche sans la moindre poussière de sentiment. J'ai derrière moi plusieurs milliards de sesterces et devant vous, vous avez l'abîme. Ma première idée était d'ailleurs de m'acheter l'Empire romain. J'ai renoncé à mon projet d'achat. L'Empire romain est tombé si bas qu'on peut se demander s'il vaut la peine qu'on le ramasse. Cela risquerait de revenir trop cher même à une firme d'importance mondiale. Mais je ne suis pas contre un arrangement.
Et comment vois-tu cette alliance entre l'Empire romain et la maison Krupp?
Ce sera une combinaison organique. Un véritable homme d'affaires ne se préoccupe que de ce qui est organique. Le premier point, c'est de mettre les Germains à la porte.
Ah oui, mais voilà le difficile.
Aux yeux d'un homme d'affaires de format mondial, le mot difficile n'existe pas. C'est une question d'argent liquide. Sur une proposition de ma part, Odoacre s'est engagé à évacuer l'Italie pour une somme de 10 millions.
Et que me proposerais-tu en échange?
Voilà, je suis prêt à verser les 10 millions à Odoacre. Et à placer quelques autres petits millions dans votre affaire impériale, juste de quoi lui maintenir la tête hors de l'eau. Et pour cela, j'exige, outre un décret sur le port obligatoire du pantalon, que vous me donniez votre fille en mariage. C'est ce que j'appelle la base organique de notre association.
Mais c'est que ma fille est promise à un patricien ruiné qui languit depuis 3 ans dans les prisons germaniques.
Sire, il n'y a pas à sourciller. Votre empire est perdu si vous ne passez pas un accord avec une firme sérieuse et éprouvée. Faute de quoi, les Germains, qui sont déjà aux portes de Rome, vont progresser à pas de géant. J'attends votre réponse pour cet après-midi. Si c'est non, j'épouse la fille d'Odoacre. La maison Krupp doit penser à s'assurer un héritier. Du point de vue politique, il serait beaucoup plus normal que j'épouse sans hésiter la princesse Germaine, bien qu'elle n'ait que 8 ans. Mais, d'un autre côté, la reconnaissance que je voue à ma patrie d'adoption m'a poussé à vous faire ma proposition en premier, car je ne voudrais pas que la maison Krupp se présente devant l'histoire entachée d'un soupçon de nationalisme. J'ai bien l'honneur.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Acte 2 maintenant de la pièce de Durenmat, Romulus le Grand. Quand surgit un homme qui a dû être jeune, c'est Gérard de Sarthe, débutant. Il est hâve, en haillons, un revenant.
Bienvenue à l'empereur de la bonne table. Salvez César, empereur des poulaillers. Salut à celui que ses soldats nomment, Romulus le Petit.
Émilien, le fiancé de ma fille. Je te souhaite la bienvenue, Émilien.
Pardonne-moi si je ne réponds pas à ton salut selon l'usage. J'ai passé trop de temps dans les prisons pour m'y retrouver dans les coutumes de ta cour. Mais l'histoire de Rome me viendra en aide. Il y a eu des empereurs à qui l'on s'adressait en disant « As-tu eu une belle victoire, César ?» À toi l'on demandera « Est-ce que sa majesté a bien dormi ?»
Ton corps porte les marques des privations et de la misère. Tu as souffert de la soif et de la faim.
Je me suis évadé de ma prison. Je suis venu jusqu'à toi, pas à pas, mille après mille. J'ai parcouru toute l'étendue de ton vaste empire, père du monde.
Moi, je n'ai pas quitté ma maison de campagne depuis que je suis empereur. Émilien, parle-moi de mon empire.
Tout ce que j'ai vu n'est qu'un immense champ de pourriture.
Parle-moi de mes sujets.
Ton peuple est pillé par les profiteurs et les trafiquants, violenté par les mercenaires, bafoué par les soulards germains.
Je n'ignore pas ce que tu me dis là.
Comment peux-tu le savoir si tu ne l'as pas vu?
Je peux l'imaginer. Émilien, ma fille t'a attendu pendant toutes ces années.
Je ne suis plus digne de recevoir la fille de l'empereur.
Oh, tu n'es pas indigne, mais malheureux.
Avili. Avili! Les Germains m'ont forcé à ramper sous un joug. Barbouillé de sang. Nu. Comme une bête. Je suis officier romain et j'ai perdu mon honneur. La princesse doit aller vers celui à qui elle appartient. Romulus, la fille de l'empereur épousera le fabricant de pantalons. Et ton empire sera sauvé par ma honte.
L'empereur n'accorde pas son consentement à ce mariage. L'empereur sait ce qu'il fait en jetant son empire au feu, en laissant tomber ce qui doit se briser, et en foulant aux pieds tout ce qui empeste déjà le cadavre.
À l'instant où tombe le rideau sur l'acte 2 de Romulus le Grand, de Friedrich Dürrenmatt, l'empereur a posé le seul acte d'autorité qu'il ait jamais posé. Il souhaite à tous d'être tranquille, à sa fille d'être heureuse. Il ne veut surtout pas jouer au père de tragédie. Nous sommes dans une anti-tragédie. Acte 3. Romulus est en robe de chambre. C'est le vêtement qu'il préférait de loin, plutôt que la toge impériale.
Sire, Sa Majesté l'Impératrice.
J'aimerais te parler une dernière fois, Romulus.
Costume de voyage, ma chérie?
Je pars cette nuit pour la Sicile.
Ah, vous avez réussi à équiper une barque de pêche?
Un radeau.
Ça me paraît plutôt dangereux.
Il est plus dangereux de rester.
What? Bonne traversée.
Je suis résolue à m'établir en Sicile. Pour y poursuivre la guerre à n'importe quel prix.
Il n'y a rien de plus absurde que de vouloir poursuivre cette guerre à n'importe quel prix.
Défaitiste.
Oh non, je trouve stupide de vouloir mettre le feu à un tas de cendres.
Nous ne nous verrons peut-être plus de longtemps, Romulus.
Oh, nous ne nous verrons plus jamais.
Tu persistes donc à refuser ta fille à Krupp.
Absolument.
Tu ne veux pas non plus partir pour la Sicile.
Non, l'empereur ne s'enfuit pas.
Nous sommes mariés depuis 20 ans, Romulus.
À quoi bon me le rappeler, Julie?
Nous nous sommes aimés.
C'est bien que tu es en train de mentir.
Parfait. Tu avoues donc enfin que tu m'as épousé uniquement pour devenir empereur. J'étais la fille aînée de Valentinien, c'était ta seule chance de monter sur le trône.
En effet, je ne t'ai épousé que pour cela.
Mais tu oses me le dire en face.
Je t'ai épousé pour devenir empereur, mais toi, tu m'as épousé pour devenir impératrice. Car j'étais de très vieille noblesse, tandis que toi, tu étais la fille d'une esclave. Faut-il te rappeler qu'autrement, c'est ta sœur qui montait sur le trône en faisant couronner son mari?
Tu admets donc que nous nous sommes servis l'un de l'autre.
Oui, si tu veux, nous nous sommes servis l'un de l'autre.
Nous sommes liés. C'est ton devoir de m'accompagner en Sicile.
Je n'ai plus le moindre devoir envers toi, Julie. Je t'ai donné ce que tu attendais de moi, tu es impératrice. Mais entre ta conduite et la mienne, il y a une grande différence.
Elle m'échappe.
Tu ne m'as épousé que par orgueil, comme tout ce que tu fais. Mais encore maintenant, c'est l'orgueil qui te pousse à poursuivre cette guerre inutile.
Je pars pour la Sicile parce que j'aime ma patrie.
Ce que tu appelles ta patrie, Julie, c'est une certaine idée très abstraite de l'État qui t'a permis de monter sur le trône.
Je confesse volontiers que rien n'a jamais compté à mes yeux, si ce n'est l'idée de l'Empire. Je suis fille d'empereur et arrière-petite-fille de Julien, qui a été le dernier des grands empereurs. J'en suis fière. Mais toi, qui es-tu? Le rejeton d'une famille patricienne en déconfiture? Il t'a bien fallu une certaine dose d'orgueil à toi aussi pour que tu oses prétendre à régner sur cet empire immense au lieu de rester le petit personnage que tu étais.
Tu te trompes, Julie. Il n'y avait pas d'orgueil dans ce que j'ai fait. C'est uniquement mon sens politique qui m'a obligé à monter sur ce trône.
Ton sens politique. Oh, mon chéri. Ton sens politique. Mais il a consisté pendant 20 ans à manger, à boire, à dormir et à élever tes poules. Tu n'as jamais mis les pieds dans ta capitale. Tu n'as jamais quitté ta maison de campagne. Tu as si bien épuisé le trésor impérial que nous en sommes réduits à vivre comme des mendiants. C'est monstrueux d'oser prétendre que ton attitude était basée sur un sens politique quelconque. Le seul fondement de ta personnalité, c'est la paresse.
Exactement. Mon sens politique m'a dicté de ne rien faire.
Mais il n'y avait pas besoin d'être empereur pour cela.
Oh ben, c'était le seul moyen de donner un sens à mon inaction. La paresse d'un simple particulier est tout à fait ce qu'il y a de plus inefficace.
Oui, mais celle d'un empereur détruit l'État.
Ah ben, tu vois, t'as tout compris, Julie.
Tu ne peux pas mettre en doute la nécessité de l'État?
Non, je ne mets en doute que la nécessité d'une autre. En aspirant à la domination du monde, l'Empire romain est devenu une institution qui s'est livrée publiquement à l'oppression, à l'exaction, au pillage, au brigandage et à l'assassinat au détriment du genre humain.
Mais je comprends de moins en moins que tu aies souhaité le gouverner.
Ah, depuis des siècles, il ne tient debout que parce qu'il existe un empereur. Il fallait bien que j'occupe ce poste si je voulais liquider l'Empire.
Il faut que tu sois fou.
Ou que le monde entier le soit. J'ai opté pour la seconde hypothèse.
Tu m'as épousé uniquement pour liquider l'Empire romain?
Pour aucune autre raison.
Dès le début, tu n'as songé qu'à la ruine de Rome?
Qu'un d'autre?
Tu as sciemment saboté notre défense?
Hein? Sciemment?
Tu m'as trompé?
Non. C'est toi qui t'es trompé, Julie, en me supposant ton ambition. Tu avais calculé, mais ton calcul était faux.
Et le tien était juste?
Oui. L'Empire s'écroule.
Tu as trahi Rome!
Non. Je l'ai jugé.
La nuit est tombée. L'empereur fait retirer de la table le chandelier de l'impératrice qui n'a plus d'usage. Il ne se demande pas s'il est un imposteur. C'est l'Empire qui est une imposture. Romulus aimerait dormir, tout simplement. Mais c'est la dernière nuit de l'Empire. Alors que le souverain ne se soucie aucunement que l'histoire soit désobligeante un jour à son égard, ceux qui, de son entourage, se tiennent encore là, voudraient laisser une trace, quelque chose qui marque. Les ministres survivants et Émilien, l'ex-futur gendre, se font donc accusateurs.
Nous voulons parler à l'empereur de Rome.
Achille, Pyram. La toge impériale, la couronne. L'instant est solennel. L'empereur est prêt à vous entendre. Qu'avez-vous à lui dire?
Rends-nous nos provinces.
Rends-nous notre empire.
Romulus, rends-nous nos légions.
L'empereur ne vous doit pas de compte.
Tu les dois à Rome.
Tu es responsable devant son histoire.
Et devant nous qui t'avons servi.
Si vous m'aviez aidé à conquérir un empire, vos reproches seraient fondés. Mais j'ai perdu un empire que vous n'avez pas gagné. Vous n'êtes rien dans cette affaire. Rien que de pauvres papillons qui dansaient autour de ma lumière. À peine des ombres qui s'évanouiront dès que j'aurai cessé de briller. Il n'y a qu'un seul homme parmi vous à qui je dois des comptes. Approche, Émilien. Je t'aime comme un fils. Tu es le seul argument valable contre ma résolution de ne pas poursuivre cette folie. Car tu représentes l'homme éternellement piétiné et sans cesse avili, parce que tu es la victime sincère et cent fois souillée du pouvoir. Émilien, que demandes-tu à ton empereur?
J'exige de l'empereur de Rome qu'il me dise la vérité.
Tu l'auras. Questionne.
Qu'as-tu fait pour empêcher que ton peuple tombe aux mains des Germains?
Rien.
Qu'as-tu fait pour empêcher que Rome soit avilie comme je l'ai été?
Rien.
Et comment vas-tu te justifier, Romulus? Tu es accusé d'avoir trahi ton empire.
Ce n'est pas moi qui ai trahi l'empire, il s'est trahi tout seul. Rome connaissait la vérité, elle a choisi la puissance. Elle connaissait l'humanité, elle a choisi la tyrannie. Rome s'est doublement abaissée devant sa propre face et à la face des peuples qui s'étaient soi-disant remis entre ses mains. Tu te dresses devant un trône invisible, Émilien. Celui de tous les empereurs de Rome dont je suis le dernier. Faut-il que je dessile tes yeux pour qu'ils voient ce trône tel qu'il est? Faut-il que je te fasse toucher à toi ce sang qui ruisselle de toutes parts, formant le flot ininterrompu de la puissance romaine? Et quelle réponse attends-tu de celui qui siège au sommet de cet épouvantable amoncellement qu'a produit notre histoire? Et que peut dire, devant tes blessures, un empereur installé sur les cadavres de ses propres enfants et des fils des autres, dans un décor monstrueux d'hécatombes, de bêtes et d'hommes que Rome s'est offerte pour sa gloire et pour son plaisir. Rome n'est plus qu'une vieille femme affaiblie et titubante, mais ses crimes ne sont pas encore expiés. Cette nuit, son heure est venue. Les malédictions de ses victimes se sont accomplies. Les Germains sont là. Et Rome doit rendre le sang qu'elle a versé. Tu as invoqué l'heure de la justice, Émilien, et bien nous y sommes. À toi de répondre à ma question. Avons-nous encore le droit de nous défendre? Avons-nous encore le droit d'être autre chose que des victimes? Tu ne dis rien. Tu as raison de rejoindre ces individus qui se sont introduits chez moi comme des voleurs. Je sais pourquoi vous êtes ici. Seulement vous vous êtes trompé. Vous croyez avoir affaire à un pauvre homme sans défense. Et vous êtes tombé dans l'antre d'un fourreau. Apprenez à qui vous avez affaire. J'ai détruit consciemment et consciencieusement la patrie que vous prétendez défendre. Et je vous ai dépouillé de l'ultime justification de votre existence. Je vous ai forcé à vous détourner de moi, mais il vous faudra bien revenir si vous voulez agir. Le dilemme est posé, vous n'y échapperez pas. Ou bien vous me tuez si vous êtes convaincu que j'ai tort. Ou bien vous vous rendez aux Germains si vous reconnaissez qu'en vérité nous n'avons plus le moindre droit de nous défendre. Répondez.
Que Rome vive.
Les Germains arrivent. Les Germains arrivent.
C'est les Germains
arrivent. Pyram. Si.
Quand les Germains seront là, tu les feras entrer.
Ceux qui entouraient une dernière fois Romulus avaient sorti leurs poignards. Ils s'apprêtaient à rejouer, comme au théâtre, la scène où les conjurés de la République agonisante avaient assassiné César. Mais voilà, les barbares sont aux portes. Et c'est de leurs mains que Romulus s'apprête à mourir. Sa dernière consigne, son devoir inutile, inaccompli, et d'ailleurs celle-ci, quand les Germains seront là, faites-les entrer. Au générique de cette pièce de Dürrenmatt, interprétée par le Théâtre National Populaire en 1971, Michael Lonsdale, l'empereur, Lolé Bellon, l'impératrice, Gérard de Sarthe, l'ex-futur gendre, François Mestre, l'entrepreneur en pantalon, César Krupf, André Cellier et William Sabatier, les ministres. La mise en scène était de George Wilson et la réalisation pour la télévision française de Marcel Craven. Et la réalisation pour cette émission de radio La Marche de l'Histoire, c'était Jacques Sigal. L'été qui vient et que Romulus Legrand vous souhaiterait paisible, s'il était encore là, La Marche de l'Histoire vous proposera toute une série de rediffusions thématiques avant de revenir pour une nouvelle saison.